espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
Il pleut, il mouille, vous connaissez la suite. Alors que nous entrons dans l'été français avec un niveau de sécheresse préoccupant, enfilez votre ciré, je vous emmène sous la pluie. L'eau, c'est la vie. Ce sont dans les zones humides, les marais, les étangs, les mangroves que la vie prolifère, ainsi que dans les forêts tropicales qui hébergent la plus grande biodiversité. Mais ces lieux qui ont été le berceau de l'humanité ont été asséchés, transformés, sont aujourd'hui menacés. Pataugeons ensemble dans l'infiniment humide. Et pour nous amener à l'eau, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Vimeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement et au Laboratoire Hydrosciences de Montpellier. Et Bertrand Sajaloli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au département de géographie de l'Université d'Orléans et président du groupe d'histoire des zones humides. Et pour commencer notre excursion, enfonçons-nous dans les marécages.
C'est un marais. Il nous conduit dans un marécage.
Un marais. Oui, oui. Venez, maître. Nous connaissons des sentiers sûrs à travers la brume. Venez, hobbit. Venez, dépêchons. Je l'ai trouvé. C'est moi. Le chemin à travers les marais. Les orques ne l'utilisent pas. Les orques ne le connaissent pas. Ils les contournent sur des milles et des milles. Dépêchons, souples et rapides, comme des ombres, soyons.
Il y a des choses mortes. Des visages morts dans l'eau.
Doucement, tous pourris. Des elfes, des hommes et des orques. Une grande bataille. Autant jadis, les marais des morts. Oui, oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Faites attention, ou les hobbits descendront rejoindre les morts et allumeront de petites chandelles.
Extrait du film Les Deux Tours de Peter Jackson, deuxième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'était il y a 20 ans déjà, et oui, en 2002. Et c'est intéressant cet extrait, Bertrand Sajaloli, parce qu'il raconte finalement tout cet imaginaire qui est notre imaginaire collectif aujourd'hui, qui est lié à certaines de ces zones humides qui sont bien l'espace de la mort, de la putréfaction, de l'au-delà.
De tout ça et également de la vie, et ce qui est assez extraordinaire dans l'image que les zones humides peuvent avoir ou dans la littérature ou bien dans toute la peinture classique, c'est cette ambivalence, c'est cette espèce de chaos des origines. J'ai en tête la Genèse, hein, le 1-2, la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, l'esprit de Dieu planait sur les eaux. On voit bien hein, que à l'origine, la Terre, hein, c'est une immense boule de boue, c'est le chaos des origines, et qu'après, Dieu va mettre de l'ordre, hein, puisque le deuxième jour, il sépare les eaux d'en haut des eaux sous le firmament, et le troisième, il va scinder les continents et les mers, avant que le cinquième, la vie y pullule. Et ce qui est très étonnant dans nos sociétés judéo-chrétiennes, c'est cette ambivalence entre vie et mort, bien et mal, qui traverse toutes les perceptions et représentations que l'on peut avoir encore aujourd'hui des zones humides.
Mais alors c'est un vrai paradoxe, Bertrand Sajaloli, parce que historiquement, ces zones humides, les étangs, l'endroit où l'on trouve de l'eau douce, les berges des fleuves, ce sont les premiers berceaux de la civilisation. Ce sont au contraire des endroits où commencent à prospérer les sociétés.
Tout à fait. Pendant très longtemps, on a voulu faire des zones humides, des espèces de terres vierges, de zones relictuelles, des coins de vraie nature, titrait le Monde dans un article il y a quelques années, alors que les recherches, notamment archéologiques récentes, je pense aux travaux d'Hervé Cubisol, de Frédéric Trément, montrent que dès le néolithique, les premiers coins d'installation durable des sociétés humaines ont été autour des zones humides. Et on comprend bien pourquoi. Parce que, d'une part, elles sont immensément riches en faune et en flore, et donc, voilà, c'était une aménité importante pour ces sociétés qui étaient en train de se sédentariser. Et d'autre part, ce sont des lieux dans lesquels on peut se réfugier, qui sont difficiles d'accès et où on peut se protéger. Et vous voyez, il y a cette ambivalence. On en fait à la fois des lieux qui seraient parmi les plus naturels de nos milieux qui restent, alors que, historiquement, ce sont sans doute les milieux qui ont été les plus tôt aménagés et occupés par les sociétés humaines.
Et c'est passionnant parce que hier, dans l'extrême infini inverse, nous parcourions les zones arides, ces zones arides qui sont l'exact inverse, ces zones qui ont été les dernières à être occupées, qui elles recèlent d'un imaginaire, évidemment vous évoquiez l'héritage judéo-chrétien biblique, c'est l'endroit de la tentation, c'est l'endroit de l'isolement, de la solitude, c'est l'endroit où la vie a disparu. Comment est-ce qu'on explique à un moment donné que ces zones fertiles se soient chargées de cet imaginaire négatif ?
Je pense que là aussi, il faut revenir à la Bible. Quand on regarde de près avec mon collègue et ami Étienne Grésillon du laboratoire LADIS à Paris Diderot, on a beaucoup travaillé sur la perception et représentation des zones humides, notamment dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et on voit se mettre en place véritablement un imaginaire de l'eau, dont d'ailleurs Gaston Bachelard dans L'eau et les rêves, essai sur l'interprétation de la matière, reprend beaucoup de thèmes, et dans lequel la Bible va diviser les eaux en pures et impures, fécondes et stériles, courantes et stagnantes. Et tous les êtres, toutes les plantes qui sont liées aux zones humides, ont dans la Bible une image qui est plutôt négative. Et ça tient aussi peut-être au fait que dans nos sociétés, on a beaucoup de mal à concevoir tout ce qui bouge. C'est-à-dire que l'avantage du sec, c'est qu'on peut le borner. Les zones humides, suivant la période de l'année, suivant l'année de la décennie ou la décennie dans le siècle, elle va être extrêmement mobile, ou sèche, ou très humide, ou très sèche, ou très inondée. Et nos sociétés ont beaucoup de mal à attraper ce qui bouge, ce qui est finalement un peu innommable.
Oui, et puis ce paradoxe également que c'est à la fois l'endroit où on a accès à de l'eau, à de la biodiversité, donc à des ressources, à de la nourriture, mais c'est aussi l'endroit de la pestilence, c'est l'endroit où on en attrape des maladies, c'est l'endroit du pourrissement.
Oui, tout à fait. C'est à la fois un lieu de vie, dans le relat par exemple de Maupassant, on le voit très bien, c'est un lieu d'où naît la vie. Et de l'autre côté, ça renvoie à la putréfaction, donc à la mort, à la déchéance et à la bassesse. Et ces deux images sont simultanées, se confrontent, sont un petit peu mélangées. Et c'est ce qui rend d'ailleurs, sur un plan à la fois géographique et symbolique, l'étude des zones humides aussi intéressante.
Françoise Vimeux, quelle est votre perception justement de cet imaginaire collectif et paradoxal que l'on peut avoir autour de ces espaces sauvages et humides ?
Oui, alors moi j'ai une vision peut-être beaucoup plus physique et plus systémique des zones humides ou des zones arides qui font partie du cycle global de l'eau. Et puis peut-être rappeler que ces zones humides, elles sont absolument indispensables à la fois à la biodiversité, mais aussi aux sociétés humaines. Je pense par exemple aux mangroves qui sont des parcelles humides qui vont par exemple avoir un rôle protecteur sur les petites îles qui est absolument indispensable quand on pense aux tempêtes ou aux cyclones. Donc ces zones humides, je les vois beaucoup plus dans un tout, dans une globalité, et beaucoup moins dans l'imaginaire que je viens d'écouter.
On va parcourir ces zones humides, aller chercher les extrêmes de l'humidité. Qu'est-ce que des zones totalement, absolument les plus humides ? Y a-t-il des endroits sur notre planète qui sont détrempés 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 ? C'est quelques-unes des questions auxquelles nous allons tâcher de répondre.
France Culture, Nicolas Martin, Infiniment.
Alors, pour explorer ces zones humides, encore faudrait-il s'entendre sur quelques notions. Françoise Vimeux, qu'est-ce que c'est que l'humidité ?
Alors, quand on parle d'humidité et qu'on est climatologue ou météorologue, on pense tout de suite à l'humidité dans l'air. Et donc, il y a deux définitions de l'humidité. Il y a une première définition qui est assez simple à comprendre, c'est quelle est finalement la quantité d'eau que l'on peut trouver dans l'atmosphère. Donc, c'est une quantité qu'on va donner en grammes par kilogramme d'air. Elle peut varier de 1 à 2 grammes dans les régions très arides, par exemple les régions polaires au centre de l'Antarctique. Et puis on peut aller vers des régions particulièrement humides où l'humidité va monter à 30, 35, voire 40 grammes par kilogramme d'air. Et ce sont les régions tropicales. Et puis il y a une deuxième définition que l'on entend souvent au bulletin météorologique du soir, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'humidité relative, qui est en fait une distance à la saturation, la saturation étant le moment où la vapeur d'eau dans l'atmosphère ne peut plus rester sous forme de gaz. La vapeur d'eau, vous ne la voyez pas, elle est incolore, hein, c'est un gaz incolore. Et puis à un moment donné, l'atmosphère est trop froide et la vapeur d'eau va se condenser sous forme de pluie et nous sommes à 100% d'humidité relative.
Ça veut dire qu'en termes d'humidité absolue, il y a un extrême qui est strictement physiquement et chimiquement indépassable.
Alors oui, on voit bien dans les régions tropicales, à un moment donné, à cause des conditions de température et de pression, la vapeur d'eau ne peut plus rester sous forme de vapeur. Et donc elle va se transformer en pluie, vous allez voir des nuages apparaître. Hein, et les nuages, c'est ça, ce sont des micro-gouttelettes d'eau. Lorsque vous avez de la vapeur d'eau, encore une fois, ça passe inaperçu en quelque sorte, vous ne vous rendez pas compte dans les régions tropicales de la quantité d'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, quand elle vous retombe dessus sous forme de pluie, c'est là où vous dites, mais c'est incroyable la quantité d'eau qu'il peut y avoir dans notre ciel.
Comment est-ce qu'on explique, Françoise Vimeux, que certaines zones du globe soient structurellement, géographiquement, plus humides que d'autres ? Qu'est-ce qui conditionne l'humidité d'une zone géographique ?
Alors en fait, tout ça c'est gouverné par les grands courants atmosphériques. La zone qui est particulièrement humide ou la zone où il pleut énormément, c'est ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Donc qu'est-ce que c'est que cette zone ? En fait, c'est une zone qui se trouve de part et d'autre de notre équateur. Et ce qui se passe à l'équateur, c'est que les températures sont très élevées et donc l'air va s'élever. Et en s'élevant, il va créer une sorte d'appel d'air à la fois du côté de l'hémisphère nord et du côté de l'hémisphère sud. Et cet appel d'air, ce sont les alizés. Et la zone de rencontre des alizés entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est la zone intertropicale de convergence. Et donc là, on va avoir de l'air très chaud et humide qui va monter dans l'atmosphère, qui va donc condenser et qui va donc former ces pluies diluviennes que l'on retrouve au niveau de l'équateur. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces mouvements d'humidité sur Terre, ils sont là pour permettre à la Terre de garder un équilibre thermique, puisque la Terre reçoit beaucoup plus d'énergie solaire à l'équateur qu'au pôle, et l'atmosphère, le transport de l'humidité, est un moyen de redistribuer la chaleur sur Terre.
Mmh. Ce qui signifie qu'il y a un lien indissociable entre humidité et température. Il y a forcément moins d'humidité lorsqu'il fait plus froid et plus lorsqu'il fait plus chaud.
Exactement, c'est la loi de Clausius-Clapeyron hein, qui nous dit que plus il fait froid, en fait, et moins votre air est capable de garder l'eau sous forme de vapeur. Il va la condenser et lorsqu'il y a cette condensation, il y a une libération de chaleur, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la chaleur latente. Et c'est comme ça que cette chaleur va être redistribuée depuis l'équateur vers les pôles.
Et il y a un lien d'ailleurs mathématique très net qui est que pour 1 degré d'augmentation de température, on augmente de 7% la capacité d'air à absorber l'humidité.
Exactement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre atmosphère se réchauffe de 1 degré, elle a la capacité à contenir 7% d'eau en plus, 7% de vapeur d'eau en plus.
Ce qui va définir donc des zones géographiques avec une forte pluviométrie, ce qui va évidemment avoir une influence sur la nature, sur les écosystèmes et sur la végétation qui elle-même va avoir une influence sur la pluviométrie. Et là, on rentre dans des systèmes, qu'il s'agisse des forêts ou des zones humides, de boucles de rétroaction.
Oui, en fait, on considère par exemple que sur le bassin amazonien, 50% de la pluie qui nous tombe dessus est recyclée par la forêt amazonienne. Ça veut dire quoi ? En fait, là, la végétation va puiser l'eau de la pluie, ou bien en surface, ou bien un peu plus profond, profondément dans le sol. Et puis, la végétation va redonner à l'atmosphère cette eau sous forme de transpiration ou d'évaporation. Et donc finalement, on a une sorte de recyclage local et on estime qu'il est de l'ordre, par exemple, de 50% dans la forêt amazonienne, mais c'est le cas dans toutes les grandes forêts équatoriales.
Bertrand Sajaloli, peut-être un mot, cette boucle de rétroaction entre climat, humidité que l'on décrit et que Françoise Vimeux vient de décrire pour la forêt amazonienne, elle est aussi vraie pour les zones humides qui sont diverses et qui ne composent pas forcément le tissu forestier tropical ?
La situation sur un plan géographique n'est pas exactement la même parce que il va y avoir une zone humide dès lors que le bilan hydrique est positif, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'eau qui arrive que d'eau qui part par évapotranspiration, bien par écoulement. Et quand on regarde d'ailleurs la localisation des grandes zones humides du monde, elles ne sont pas équatoriales, mais elles sont plutôt dans la zone froide. Ce sont les immenses tourbières de Sibérie orientale et occidentale, ou tout le nord du bouclier canadien. Et si on raisonne en termes géographiques et non pas climatiques, finalement, une zone humide, on va les trouver ou bien dans les endroits où la quantité des précipitations est plus importante que l'évapotranspiration, ou alors dans les bas-fonds, c'est-à-dire où, pour des raisons topographiques, la convergence des eaux dans un bassin versant plus ou moins grand va être plus importante que la quantité d'eau qui s'en va.
Quand on regarde, Françoise Vimeux, les zones géographiques avec le plus haut niveau de pluviométrie sur la planète, on se retrouve avec des niveaux de pluviométrie invraisemblables. L'endroit alors qui est estimé comme étant l'endroit le plus pluvieux sur Terre, c'est une localité en Inde, j'aimerais ne pas l'écorcher, qui s'appelle Mausinram et qui enregistre 11 mètres de pluie par an.
Oui, alors quand on parle de record sur les cumuls de pluie, il faut bien s'entendre sur la définition. Si on parle en termes de climatologie, c'est-à-dire que l'on regarde en moyenne annuelle sur 30 ans, 40 ans, où est-ce qu'il pleut le plus, ce sont des zones autour de l'équateur. Ça va être par exemple le nord-ouest de l'Amazonie, entre le Brésil et la Colombie. Ça va être l'Asie du Sud-Est, en particulier la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous avez aussi des zones océaniques au-dessus du Pacifique équatorial, où on va atteindre plus de 10 mm par jour de pluie, donc 3 à 4 mètres par an. Maintenant, si vous me demandez où est-ce qu'on a enregistré des records en termes de cumul, alors là, il y a deux situations. Ou bien c'est des situations cyclonique, c'est-à-dire qu'on est à un endroit, il y a un cyclone et il y a un cumul sur quelques heures, quelques jours qui est énorme. Et là, l'île de la Réunion détient les records mondiaux. Et puis, la deuxième situation, c'est des situations de mousson. Et donc là, c'est ce que vous disiez, les records de cumul sur un mois, un an, voire deux ans, on les enregistre dans le nord-est de l'Inde. Et on a des records absolument monstrueux, qui sont, je crois, plus de 9 mètres sur un mois, plus de 26 mètres sur un an et sur deux ans de suite, je crois que 1860-1861, on est monté jusqu'à 40 mètres dans cette région de l'Inde.
Alors, puisque vous parlez de la mousson, c'est évidemment une des composantes essentielles de ces grands mouvements d'humidité atmosphérique et du climat. Qu'est-ce que c'est que la mousson et comment ça marche ? Petite explication sonore.
Le terme de mousson est généralement associé à l'Asie du Sud, mais ce phénomène régit également le climat de l'Afrique de l'Ouest. Il désigne une inversion saisonnière des vents dominants dans des zones d'interface entre continents et océans. Les aléas de la mousson d'Afrique de l'Ouest conditionnent la vie de 300 millions de personnes. L'hiver, lors de la saison sèche, l'harmattan souffle. Ce vent du nord-est apporte avec lui le sable du Sahara sous la forme d'une poussière sèche, irritante, qui s'infiltre partout. Au début de l'été, la différence de température entre l'océan, froid, et le continent, chaud, crée de grands mouvements convectifs. Venant du golfe de Guinée, un air chargé d'humidité s'engouffre sur le continent, repoussant l'harmattan plus au nord. Et la pluie tombe. De cette pluie dépendent la reconstitution des réserves d'eau et les récoltes de l'année. En quelques semaines, les cours d'eau renaissent, les lacs se reforment, le Sahel reverdit. Mais la mousson d'Afrique de l'Ouest est irrégulière. Depuis la fin des années 70, la sécheresse frappe. Avec un déficit de pluie de 50%, cette sécheresse est, par son étendue géographique et sa durée, sans équivalent au monde.
Voilà, un document extrait de chez nos confrères de RFI qui date de 2015. Vous pouvez nous expliquer peut-être, et l'un et l'autre d'ailleurs, et à la fois du côté climatique et de l'autre côté, du côté géographique, l'importance de la mousson pour les populations et pour les écosystèmes et la préoccupation qu'il y a aujourd'hui autour de son dérèglement, Françoise Vimeux.
Oui, alors la mousson, ça a été très bien dit dans le reportage, dans des régions comme le Sahel, c'est la source de pluie qui arrive au mois de juin et qui va se finir, je dirais, au grand maximum en octobre. Et donc cette saison de mousson, elle est cruciale parce que, évidemment, l'agriculture va en dépendre. Et je dirais que l'agriculture, elle dépend bien sûr du cumul de pluie pendant cette saison, mais elle dépend aussi de la date d'arrivée de la mousson, hein, qui peut arriver début juin, mi-juin, voire tardivement début juillet. Et donc, il y a des grandes questions autour de la saisonnalité de ces moussons. Est-ce que ces moussons vont conserver la saisonnalité qu'on leur connaît aujourd'hui, ou est-ce que ça va être modifié dans un climat plus chaud? Et ça, c'est extrêmement préoccupant pour, je l'ai dit, essentiellement l'agriculture, pour la ressource en eau, et derrière, on comprend qu'il y a des problèmes de sécurité alimentaire. Et c'est d'autant plus, je dirais, important qu'on a des incertitudes assez importantes sur les projections des changements de pluie dans les zones de mousson. Donc là, on a parlé du Sahel, mais il y a aussi l'Inde, il y a aussi la Chine, et puis il y a aussi un système de mousson en Amérique du Sud tropicale.
Bertrand Sajaloli, cette mousson, elle est essentielle, notamment pour toutes les zones inondées, les zones et certaines des zones humides artificielles qui sont développées, notamment, on pense aux rizières en Asie, qui sont très dépendantes de ces pluies.
Tout à fait, restons en Inde. Là, je dirige en ce moment un programme sur la justice alimentaire en Inde et sur la précarité alimentaire. Et un des gros soucis, c'est effectivement la mousson et en particulier la formidable irrégularité de la mousson et l'accroissement des épisodes violents, que ce soit des épisodes qui ont engendré, pas plus tard que la semaine dernière, des inondations absolument terribles dans le nord-est de l'Inde, ou alors des épisodes de sécheresse qui sont extrêmement marqués. Et donc, de ce fait, le riz paddy, le riz inondé qui a, avec la Révolution verte, permis quand même à l'Inde, qui est le premier ou le deuxième pays en termes de population, je rappelle 1,3 milliard, 1,4 milliard habitants à peu près, qui a permis de traverser les 50 dernières années sans famine extraordinaire. Et donc ce modèle de la riziculture qui permettait quand même à des populations nombreuses d'être alimentées, avec des contrastes de pauvreté phénoménaux qui sont ceux liés à la péninsule indienne. Mais ce modèle est aujourd'hui menacé. Il est en train de redécouvrir, en particulier, c'est un peu l'objet de mes recherches actuelles, toutes les céréales anciennes comme le millet, qui sont à la fois très nutritives et qui sont beaucoup plus résistantes aux aléas climatiques.
Nous allons continuer à explorer ces extrêmes d'humidité après nous être intéressés au climat, à l'humidité atmosphérique. Chaussez vos bottes, mettez votre cire et mettez des bottes assez hautes parce qu'on va rentrer profondément dans ces zones humides. Oh, Bleeding Muddy Water de Mark Lanegan dans Infiniment. Nous explorons l'infiniment humide tout au long de cette heure en compagnie de Françoise Vimeux, qui est directrice de recherche à l'IRD, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et au laboratoire hydrosciences de Montpellier, et avec Bertrand Sajaloli, qui est maître de conférence au département de géographie de l'université d'Orléans et président du groupe d'histoire des zones humides. Et justement, Bertrand Sajaloli, ça tombe bien puisque il faudrait tout de même, maintenant que nous y sommes et que nous avons compris une certaine partie des cycles hydriques, définir exactement ce qu'est et ce qui constitue une zone humide.
Alors, il y a une définition qui a été donnée par la convention de Ramsar, qui est signée en 1971, qui rassemble aujourd'hui 172 États. 2500 sites remarquables ont été choisis par les États, ce qui fait à peu près 255 millions d'hectares. Et il y a une définition française, qui est donnée par la loi sur l'eau du 3 janvier, qui a été reprise par le Code de l'environnement. Alors, je vous lis la définition de Ramsar, des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, ou d'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Donc, vous voyez, il y a une définition qui est très large et qui est également très ambiguë, dans la mesure où la notion de permanente ou temporaire n'est jamais clairement explicitée. Et il y a quelque chose qui est d'ailleurs assez étonnant et finalement assez rigolo pour les géographes et pour les écologues, c'est que si on prend des éminents auteurs du muséum ou des services de l'État, ben, la superficie des zones humides françaises métropolitaines varie de 1 à 2% du territoire, de même qu'il n'existe pas véritablement de cartographie qui fasse foi.
Alors, j'ai trouvé néanmoins des chiffres que je vais vous soumettre et vous allez nous dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé 12 millions de kilomètres carrés à l'échelle du globe, soit une surface comprise, selon les études, entre 4 à 6% de la surface de la planète, là où, pour le rappeler, ce dont nous parlions hier, les zones arides représentent un tiers de la surface émergée de la planète.
Oui, tout à fait. Je pense que vous reprenez des chiffres qui sont ceux de Ramsar ou qui sont ceux qui sont avancés par l'IUCN, l'Union internationale de conservation de la nature. Donc voilà, on est à peu près dans cette fourchette-là.
Est-ce que la forêt tropicale dont nous parlions est incluse dans ces zones humides? Ça paraît difficile compte tenu de la superficie immense de forêt tropicale. Et pourquoi n'est-elle pas inclue finalement?
Stricto sensu, c'est un biome différent, c'est une forêt, alors que une zone humide a un sol qui est quand même totalement gorgé d'eau. Si on prend l'exemple de l'Amazonie, il y a des zones qui sont à la fois forestières et humides, c'est la varzea, c'est-à-dire la forêt qui va être inondée par les crues de l'Amazone, ou alors ce seraient les mangroves, qui sont à la fois forestières et des zones humides. Mais il est difficile de considérer qu'un biome forestier équatorial, la forêt congolaise ou la forêt amazonienne, constitue une zone humide. Même si, évidemment, à l'intérieur de ce biome, il va y avoir de très grandes tourbières équatoriales qui sont absolument extraordinaires, à la fois en termes de biodiversité et puis de milieu, vous voyez, totalement spongieux, avec des croissances de mousse qui peuvent dépasser 50 cm dans la journée.
Comment est-ce que l'on explique que ces zones humides, alors on ne parle pas de la forêt à proprement parler, mais que ces zones humides soient depuis quelques centaines d'années maintenant en régression systématique? À partir de quel moment finalement les civilisations occidentales notamment, mais pas uniquement, ont cherché finalement à assécher ces zones humides? Et pourquoi, Bertrand Sajaloli?
Alors, déjà, elles sont en forte régression, davantage dans un monde, enfin dans les religions du livre, l'islam compris, que dans les grands deltas asiatiques, puisque d'une certaine manière, une rizière est une zone humide qui est aménagée par l'homme. Et il y a là un effet qui est culturel, parce que si on raisonne en écologue, les zones humides, quelle que soit la zone bioclimatique dans laquelle elles s'insèrent, sont les lieux qui ont la plus forte productivité primaire, c'est-à-dire la plus grande quantité de production de manière sèche à l'hectare et par an. Donc, normalement, puisque ce sont les lieux les plus productifs, c'est-à-dire exactement ce qui se passe dans une rizière, qui, en plus de la rizière, fournit des volailles avec avec les canards et aussi lié avec un système de pisciculture. Hein. Vous voyez, c'est le modèle rizicole hein, qui permet, dans les grands deltas asiatiques qui connaissent aujourd'hui les densités rurales humaines les plus importantes du monde, mais en Occident, eh ben de par cette mauvaise, enfin de par l'histoire et de par cette mauvaise perception des zones humides, on a eu de cesse, surtout à partir du 19e siècle, sous l'influence des physiocrates, avec un idéal agricole d'assèchement, des hygiénistes qui, au 19e siècle, voyaient dans les miasmes, les odeurs délétères, la cause hein, de toutes les fièvres et de tous les maux, y compris des maux psychologiques. Il y a un article assez cocasse d'Yves Lujimbul, hein, qui montre que au 19e siècle, en même temps que l'on est en train de drainer les eaux, eh ben les hommes tout d'un coup se redressent et redeviennent bon mari, bon travailleur, bon citoyen, bon catholique. Mmh. Ah oui, c'est que finalement l'eau stagnante les enfonçait dans une espèce de détresse morale et physique. Hein. Et je reprends là les termes de Georges Sand hein, dans les légendes rustiques. Mmh. Et en gros, jusqu'au milieu des années 70, à peu près, ben, les zones humides vont être pourfendues, combattues, asséchées, et même signe du progrès de la victoire de l'homme sur les errements de la nature.
On peut citer en France l'exemple des Landes, dont certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs ont certainement oublié qu'il s'agissait d'une immense zone humide à ciel ouvert et qui a été progressivement et systématiquement asséchée.
Tout à fait, de la Sologne aussi, oui, les Landes ont été asséchées. Le début de l'assèchement, c'est sous Napoléon Ier avec Brémontier, hein, mais c'était un immense marécage qui est devenu après la forêt landaise. C'est pareil pour la Sologne. La Sologne, jusqu'à Napoléon III, hein, est une immense zone humide. Il n'y a pas un arbre en Sologne. Alors qu'aujourd'hui, c'est la forêt avec les Landes. Hein, c'est le deuxième massif forestier français en termes de superficie, même si c'est une forêt privée et non pas une forêt publique.
Alors aujourd'hui, on sait, et les travaux notamment d'écologues montrent que ces zones humides sont extrêmement sensibles, extrêmement fragiles, absolument nécessaires, qu'elles sont des lieux également de capture de carbone, comme nous le disions il y a peu de temps concernant la forêt amazonienne. Alors j'ai deux questions pour vous, Bertrand Sajalovi. La première, c'est comment expliquer que ces zones humides qui ont cette image de miasme, etc., soient à ce point-là des hotspots, des points chauds de biodiversité? Et pourquoi sont-elles aussi fragiles?
L'explication, elle relève de l'écologie de base, c'est-à-dire que les trois facteurs limitants en écologie, c'est la présence de l'eau, la présence du soleil et la présence ou l'absence de nutriments. Or, dans une zone humide, par définition, il y a de l'eau. Comme il n'y a pas ou peu de couverts forestiers, il va y avoir un apport énergétique, et comme ce sont des milieux qui se décomposent très lentement, donc on a des milieux où il n'y a aucune contrainte. Dans ce cas-là, ben, on va avoir des milieux qui ont un dynamisme écologique extraordinaire, et aussi sur un plan écologique, comme ce sont quand même des milieux qui sont contraignants, on va avoir beaucoup d'espèces qui sont ou très spécialisées ou des espèces pionnières et qui arment cette biodiversité. Je vous donne deux chiffres. Hein, 40% de toutes les espèces du monde dépendent des zones humides. Si on prend les mares hein, sur lesquelles j'ai longtemps travaillé, les mares en France, il y a 0,01% de la superficie nationale et elles accueillent 20% des espèces animales et végétales protégées. Vous voyez, il y a un rapport de 1 à 2000 entre la superficie qu'elles occupent et leur contribution à la biodiversité nationale.
Et sur la fragilité, comment l'explique-t-on ?
D'une certaine manière, la fragilité, elle est liée à la volonté humaine de les transporter. Il y a une fragilité qui est culturelle, enfin qui a longtemps été culturelle, hein, du moins jusqu'aux années 90. Parce que une zone humide, dans la mesure où on la laisse tranquille, hein, ce qui est d'ailleurs l'objectif hein, des réserves naturelles hein, qui les accueillent, hein, puisque de deux tiers des 350 réserves naturelles françaises accueillent des zones humides. Hein, vous voyez, c'est le milieu le plus protégé en France métropolitaine et dans l'ultramarin de très très loin. Mais dans la mesure où il n'y a pas d'impact humain extrêmement important, les zones humides ne sont pas si fragiles que ça.
L'un des paradoxes, Françoise Vimeux, justement, de la transformation des sols par l'être humain, de l'assèchement de ces zones humides, c'est que d'un seul coup, eh bien, l'humain a rendu la pluviosité dangereuse. Les sols deviennent incapables, justement, bien, d'absorber à nouveau cette eau et ça crée, bien, les désastres que l'on voit régulièrement et de plus en plus souvent, malheureusement, aux actualités suite aux inondations et aux éboulements et aux effondrements de terrain.
Oui, alors là on parle de l'urbanisation des sols et on parle aussi de la modification de l'usage des sols en fait. Hein. Et effectivement, lorsque vous avez une pluie qui tombe sur un sol urbanisé, eh bien la pluie ne s'infiltre pas, elle va rester en surface. Hein. Vous avez rendu en quelque sorte le sol imperméable. Et donc si vous avez des cumuls de pluie qui augmentent, et je pense qu'on va en parler avec le changement climatique, on va vers une augmentation de la fréquence et l'intensité des pluies torrentielles. Eh bien, on va vers des catastrophes. Il y a aussi le problème des sols argileux qui, lorsqu'ils deviennent très secs, provoquent des dégâts sur les bâtiments.
Et comment on explique aujourd'hui, Françoise Vimeux, la raison pour laquelle une fois que ces zones humides, que ces sols ont été asséchés, une fois qu'une partie des forêts, notamment des forêts tropicales, ont été arrachées, comment se fait-il qu'elles ne puissent pas, ou est-ce qu'elles peuvent, d'une certaine manière, se reconstruire ou se reconstituer naturellement, ou est-ce que c'est quasiment impossible ?
Alors une forêt, le cycle de vie naturel d'une forêt, c'est qu'elle puisse se reconstituer. Hein. On parle de forêt à l'équilibre et une forêt arrive très bien à se reconstituer toute seule. Lorsque la main de l'homme en fait apparaît et que l'on a de la déforestation, alors là ça devient compliqué parce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La forêt a un impact en fait sur le cycle de l'eau local, sur la pluie, à la fois sur son cumul. Et puis sur la manière dont cette pluie va tomber. Donc là, ça devient compliqué. Mais je dirais que c'est davantage la déforestation et la transformation du sol qui empêche cette forêt de se maintenir.
Un autre effet, Françoise Vimeux, des modifications anthropiques du climat, c'est que paradoxalement, là aussi, alors que nous sommes en plein été, qu'on a connu en France un épisode de sécheresse très précoce, eh bien paradoxalement, le réchauffement climatique amplifie la pluviométrie. 2020 a battu, alors peut-être même que vous avez des chiffres plus récents, mais enfin les derniers que j'ai trouvés, c'est que 2020 a battu le record de cumul de pluie de l'histoire des mesures.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que de manière globale, hein, si je regarde de manière globale notre Terre et en moyenne, le fait que le climat soit plus chaud, on va vers plus de pluie sur les terres émergées. Ça vient de la situation dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que l'atmosphère se réchauffe de 1 degré, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, 7%. Ensuite, lorsque je regarde de manière beaucoup plus détaillée, c'est un petit peu différent. Le changement climatique, le fait qu'on soit dans un climat plus chaud, ça va modifier la répartition géographique des pluies, ça va modifier la saisonnalité de ces pluies et ça va modifier les cumuls dans certaines régions. Alors certaines régions vont voir plus de pluie, d'autres moins de pluie. On a l'habitude de dire que là où il pleut déjà beaucoup, il va pleuvoir plus et là où il pleut déjà peu, il va pleuvoir encore moins. Donc ça, c'est vraiment de manière globale. Après, je pense que ce qui est important de dire, c'est que le réchauffement fait que le cycle de l'eau est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus variable, beaucoup plus intense. Et ça conduit à une augmentation des pluies torrentielles. Alors aujourd'hui, nous sommes à un réchauffement de 1,1 degré sur la dernière décennie par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle. Et les pluies torrentielles, en termes de fréquence, ont déjà augmenté en global de 30%. Si on regarde leur intensité, elle a augmenté d'un petit peu plus de 7%, hein, puisqu'on est à 1,1 degré. Mais sur les pluies orageuses, on peut avoir des intensités qui ont déjà augmenté jusqu'à 14-15%. Donc ça pose des gros soucis d'adaptation et de gestion de ces pluies, de ces cumuls torrentiels qui nous arrivent dessus. C'est un petit peu comme si le ciel nous tombait sur la tête.
Oui, et puis il faut ajouter quelque chose dont on parle peu quand on parle des gaz à effet de serre, c'est que la vapeur d'eau, l'humidité, a un effet de serre sur l'atmosphère et donc amplifie là aussi dans une boucle de rétroaction le réchauffement de la surface de la planète.
Alors effectivement, l'eau c'est le premier gaz à effet de serre. Alors en fait, pourquoi on n'en parle pas beaucoup et pourquoi est-ce que l'on parle du dioxyde de carbone ? C'est parce que l'eau elle est présente à l'état naturel et que l'effet anthropique c'est d'avoir rajouté du dioxyde de carbone et du méthane. Effectivement, nos modèles de climat vont traiter ce surplus d'effet de serre qui est dû à davantage de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En revanche, ce surplus va vraiment dépendre de la région où on se trouve, parce que dans certaines régions, le surplus de vapeur d'eau qui est mis dans l'atmosphère retombe tout de suite sous forme de pluie.
Mmh. Bertrand Sajaloli, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Peut-être un mot de conclusion sur aujourd'hui la création de nouvelles zones humides, la préservation des zones humides existantes. Est-ce que aujourd'hui on sait finalement recréer ces écosystèmes ? Est-ce qu'il faut les recréer ou est-ce qu'au contraire il faut faire comme ce qui se passe en Asie, c'est-à-dire créer des zones humides distinctes, comme les rizières notamment ou les retenues ? Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Bon, je voudrais d'abord finir par un message d'espoir, parce qu'on a été un peu triste de voir toutes ces zones humides qui disparaissaient. Et depuis les années 90, il y a quand même un réel regain d'intérêt pour les zones humides. Quelque chose d'un peu anecdotique, mais qui est significatif, hein. En France, il y a 32 communes qui se réclament comme des petites Venises, hein. Montargis, la petite Venise du Gâtinais, Pont-Audemer, la petite Venise normande. Et de même qu'en milieu rural, hein, très nombreux sont les exemples de communes qui vont réhabiliter des zones humides. Donc c'est le premier point. Il y a leur disparition a quasiment cessé en France, hein. La deuxième idée, c'est celle que vous développez, c'est-à-dire que la plupart des zones humides, il faut cesser de penser qu'une zone humide est un milieu qui est naturel. C'est un construit social. C'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Et nous continuons à construire des zones humides, ne serait-ce que, par exemple, au bord des routes, hein, puisque la loi sur l'eau interdit aux précipitations qui ont transité sur la chaussée d'être directement relarguées, donc dans le milieu naturel. Donc il va y avoir des petites mares, hein, autoroutières. Alors les autoroutiers appellent ça des bassins de décantation-filtration, mais ce sont exactement des mares, hein, qui ont une biodiversité qui est extrêmement importante, et on s'aperçoit que pour des raisons techniques qui relèvent à des lois d'urbanisme, les zones humides sont de plus en plus nombreuses à être créées. Alors il peut y avoir des polémiques, hein, comme par exemple ces grands bassins, hein, que l'on veut faire aujourd'hui pour compenser la péjoration des précipitations, ces grandes bassines, hein, donc voilà, il y a des polémiques, c'est des objets de débat entre spécialistes, mais quand même grosso modo, entre le regain d'intérêt des zones humides et la meilleure maîtrise que l'on peut en avoir, on est dans une phase qui est plus favorable aux zones humides qu'il y a encore une trentaine d'années.
Allez, on sort les serviettes éponges, on s'ébroue, on se sèche et on revient sur la terre un peu plus sèche, peut-être un peu trop sèche. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Merci Françoise Vimeux, merci Bertrand Sajaloli. Un mot peut-être sur les travaux ou sur des publications sur les zones humides que vous pourriez nous recommander ?
Moi je conseille aux éditeurs d'aller voir le site du groupe d'histoire des zones humides dans lequel sont recensés tous les travaux que depuis 20 ans nous faisions, sachant que ce sont des travaux de géographes, d'historiens, d'écologues, de juristes, de gestionnaires.
Infiniment, c'est Eve Etienne, Alexandre Morales, Olivier Bétard et Jordan Fuentes. Samedi prochain, on va prendre un sacré coup de vieux. Pourquoi certains organismes vivants ont-ils une vie à rallonge, de la tortue géante des Galapagos au requin du Groenland que l'on suspecte de flirter avec les 500 ans, des 7000 ans du cèdre du Japon jusqu'aux 80000 ans du pando de l'Utah, la vie humaine va nous paraître bien courte. Vers l'infiniment vieux et au-delà.